la race des Préfontaines a disparu avec l'ancien régime. Il n'y a plus de place dans notre société démocratique pour ces hommes à la fois serviteurs et amis, habitués à se compter pour rien, que l'on rencontre si souvent dans les grandes familles d'autrefois, où rien ne paraissait plus naturel que leur dévouement de bon chien à des maîtres toujours exigeants et souvent ingrats. La grande mademoiselle n'était pas ingrate, mais elle était violente et c'était toujours sur le patient Préfontaine qu'elle passait ses colères. Il était son conseiller, le factotum, très avisé et très ferme, auquel aboutissaient toutes les affaires. Le confident qui savait les projets de mariage les plus secrets, sans cesser un seul instant d'être le domestique qui ne compte pas. Sa maîtresse ne faisait rien sans lui, et elle ne nous dit même pas, elle qui se perd dans les infiniment petits lorsqu'il s'agit des personnes de qualité de sa suite. À quelle époque cet homme précieux entra à son service. Elle le nomme pour la première fois en 1651, sans dire qui il est ni d'où il vient. Ne cesse plus dès lors de le nommer et le laisse néanmoins dans ses mémoires à l'état d'ombre. Quand nous aurons ajouté qu'il était gentilhomme, très estimé, et qu'il n'avait pas d'autre raison de se dévouer à mademoiselle que d'être entré chez elle pour cela, quand nous aurons ajouté qu'il était gentilhomme, très estimé, et qu'il n'avait pas d'autre raison de se dévouer à mademoiselle que d'être entré chez elle pour cela, nous aurons dit à peu près tout ce que l'on sait de lui. Il avait trouvé les affaires de sa maîtresse en fort mauvais état et l'en avait averti. Monsieur avait été un tuteur négligent et, qui pis est, un tuteur infidèle. Mademoiselle ne voulut rien écouter. C'était à Paris dans le feu de la fronde et elle avait autre chose à penser. Préfontaine revint à la charge à Saint-Fargeau, où le temps ne manquait pas et fut mieux reçu. Un sentiment nouveau s'était éveillé chez mademoiselle. Elle commençait à aimer l'argent. Elle prit intérêt à ses affaires. Habilement dirigée, elle s'appliqua aux choses de la chicane avec un tel succès qu'elle en aurait bientôt remontré à la comtesse de Pimbèche. Il lui venait des idées d'ordre et d'économie bien rares chez les princesses de son temps. « Ce n'est pas assez, » dit-elle un jour à Préfontaine, « d'avoir l'œil sur mes procès et l'augmentation de mes revenus, mais il faut aussi voir la dépense de ma maison. Je suis persuadée que l'on me vole et pour éviter cela, je veux que l'on me rende compte, comme on l'a fait un particulier. Cela n'est point au-dessous d'une grande princesse. » Examen fait, ils virent qu'effectivement, les gens de mademoiselle la volaient. À dater de cette découverte, elle s'imposa de contrôler deux fois la semaine toutes les dépenses. Jusqu'aux plus petites, elle sut le prix de chaque chose. Qui m'aurait dit, du temps que j'étais à la cour, que j'aurais su combien coûte la brique, la chaux, le plâtre et les voitures, journée des ouvriers, enfin tous les détails d'un bâtiment, mais que tous les samedis, j'aurais arrêté leur compte. Cela m'aurait bien surpris. Et le monde encore plus. C'était une chose presque incroyable. Monsieur ne prenait pas au sérieux les comptes de tutelle de sa fille. Dans sa pensée, le chef de la famille d'Orléans avait le droit et le devoir de faire prévaloir l'intérêt général de la maison sur les intérêts particuliers de ses membres. Sa fille du premier lit était puissamment riche. Quoi de plus juste que d'user librement de sa fortune pour le bien commun? Quoi de plus naturel que de rejeter sur elle la moitié des dettes contractées pour faire paraître la famille avec éclat? Ou de donner un peu de son superflu à ses jeunes sœurs en vue de leur établissement? Il lui envoya à signer un acte conçu dans cet esprit et essuya le refus le plus net. Très respectueusement, mais avec fermeté, mademoiselle annonçait la volonté de s'en tenir aux dispositions de la loi qui lui garantissait l'intégrité de sa fortune. Monsieur se mit en colère, après quoi il ne sut plus que faire. La politique lui valut un secours inopiné. On venait d'arrêter un gentilhomme envoyé en France par Gondé pour porter son courrier. On avait trouvé sur lui, entre autres, une lettre sans suscription, mais évidemment destinée à mademoiselle et des plus compromettantes pour elle. Mazarin chargea l'archevêque d'Embrun d'en remettre une copie à Gaston. On possède la dépêche où le prélat rend compte de sa mission. En voici les passages essentiels.
À Blois, ce 31 mars 1653.
Monseigneur, je suis arrivé dimanche au soir en cette ville où j'ai été accueilli avec toutes les caresses imaginables de monsieur. J'ai eu en arrivant une conférence d'une heure seul avec lui dans son cabinet. Je lui ai présenté par la lettre adressante à mademoiselle ses intelligences avec monsieur le prince, les Espagnols et monsieur de Lorraine, qui étaient toutes marquées visiblement dans la lettre. Il m'a dit là-dessus qu'il était fort mal satisfait de mademoiselle, que la reine savait qu'ils n'avaient jamais été 8 jours ensemble et que présentement elle lui voulait susciter une chicane pour lui demander compte de son bien durant le temps qu'il en avait eu la garde noble, et qu'ainsi il ne doutait point de son emportement. Je lui dis aussi que j'avais ordre de supplier son Altesse royale de faire 2 observations sur cette lettre. La première, que mademoiselle, jouissant de grands biens dans le royaume, elle pourrait assister à un parti où elle était engagée, mais que le roi, détourné ce mal, avait résolu de mettre des administrateurs ou commissaires dans son bien pour le lui conserver, sans qu'elle en pût abuser, mais qu'on laissait à son Altesse royale le choix des commissaires. La seconde observation était qu'il y avait à craindre, suivant l'intelligence de la lettre, que si monsieur le prince s'avançait, mademoiselle pourrait l'aller joindre et que le roi, en cette difficulté, lui demandait conseil, comme étant plus intéressé que personne dans la conduite de mademoiselle. Il m'a répondu qu'il lui avait mandé de venir le trouver à Orléans le mardi de la semaine sainte, que de là, il prétendait la ramener à Blois, où elle demeurait auprès de lui. J'ai aussi, monseigneur, entretenu madame de tous les mêmes sujets dont j'avais traité avec monsieur, parce que je savais qu'elle en était instruite et que d'ailleurs monsieur défère beaucoup à ses sentiments.
Mazarin ne donna jamais aucune suite à la communication de l'archevêque d'Embrun. Il lui suffisait d'avoir fait entendre à monsieur qu'on l'autorisait à ne pas se gêner avec une rebelle, et monsieur, de son côté, n'en demandait pas davantage. Sûr à présent d'être couvert par la cour, il se répandit en paroles amères et en menaces contre cette fille désobéissante et sans cœur qui se dérobait à son devoir. Tantôt, il lui écrivait que
si elle ne lui donnait de bonne volonté tout ce qu'on lui demandait, il se mettrait en possession de tout son bien et ne lui donnerait que ce qui lui plairait.
Tantôt, il jetait feu et flamme contre elle, en public.
Elle n'aime point ses sœurs, dit que ce sont des gueuses, qu'après ma mort, elle leur verra demander l'aumône, sans leur en donner. Elle veut voir mes enfants à l'hôpital.
Et autres propos du même genre qui étaient rapportés à Saint-Fargeau. Mademoiselle apprit un jour par lui-même qu'il songeait à l'enfermer dans un couvent,
que c'était l'intention du roi,
et qu'elle devait se disposer à venir le trouver. Au même moment, elle était avisée de Paris que son père avait promis à la cour de
l'arrêter prisonnière.
Dès qu'elle serait à Blois, les choses en vinrent au point que monsieur ne pouvait plus entendre le nom de sa fille, sans entrer en fureur. Cette princesse s'était tout d'abord montrée intrépide. Sachant que la lettre de Condé ne portait pas d'adresse, mademoiselle nia qu'elle lui fut destinée et le prit de très haut avec son père.
Je m'en décomble, ne pouvait ôter mon bien, à moins que d'être déclarée folle ou criminelle, et je savais bien que je n'étais ni l'une ni l'autre.
La réflexion lui ôta cette belle assurance. L'idée d'être arrêtée prisonnière la terrifiait, et c'était certainement de l'avis de ces dames. Le sort qui l'attendait à Blois, la raison pour laquelle monsieur, après le lui avoir tant défendu, lui envoyait à présent ordre sur ordre de l'aller trouver. Elle en versait des torrents de larmes. Elle en fut malade lorsqu'il fallut enfin obéir. Et elle avoue qu'en arrivant à Blois, elle avait perdu la tête de frayeur. Ce fut l'histoire du lièvre et des grenouilles. Les projets de Gaston, quels qu'ils fussent, s'évanouirent à l'aspect de cette personne agitée, et il n'eut plus d'autre pensée que de calmer sa fille pour éviter les scènes. Il y employa toutes ses grâces, qui étaient fort grandes, et contraignit mademoiselle, rassurée et rassérénée, à convenir que son père pouvait être charmant. Les jours s'écoulèrent sans qu'il fût question de leur démêler.
Je lui voulus parler un jour de mes affaires. Il s'enfuit et ne me voulut donner aucune attention.
Mademoiselle se laissait prendre aux délices d'un pays couvert de châteaux superbes où elle était fêtée et de villes aimables qui tiraient le canon en son honneur. Elle s'y promena une grande partie de l'été, 1653, et se sépara de son père le plus amicalement du monde. 8 jours après, la situation était plus sombre qu'avant son départ pour Blois. Les exigences de monsieur n'avaient pas diminué son langage, se taisait encore plus dur et plus menaçant.